Chers auditeurs, bonjour. Merci d'écouter VOA Afrique et votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À la présentation, vous êtes avec Rosine Mounezero et je suis en compagnie de Mohamedou Oumfa à la coprésentation. Bonjour Mohamedou.
Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons du VIH-Sida chez les enfants. De nombreux enfants naissent chaque jour avec le VIH du fait d'une contamination par leur mère. Professeur Madeleine Folquet.
Une femme qui a une charge virale élevée, elle a été pour la première fois en contact avec le virus pendant qu'elle est enceinte, ou bien qui a un stade avancé de la maladie, ou qui a une carence, a plus de risques de contaminer son enfant par le VIH.
Et puis pour vivre longtemps avec le virus, la maladie et les complications qui en résultent, ces enfants ont besoin d'une prise en charge globale. Docteur Dorian Gakiza.
Ces enfants ont certes besoin d'une prise en charge médicale, mais aussi la prise en charge nutritionnelle, l'accompagnement psychologique, le soutien social et aussi scolaire.
Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Aman Genka répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda dans le studio avec nous. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Alors le taux de mortalité lors des opérations chirurgicales est deux fois plus élevé en Afrique qu'en moyenne dans le monde.
C'est en tout cas ce qu'ont affirmé des chercheurs dans une étude mettant au jour un fléau rarement discuté. En théorie, la mortalité pourrait être moins élevée sur ce continent qu'ailleurs. Les patients y sont en effet plus jeunes et y subissent des interventions moins lourdes. Mais d'après les auteurs de cette étude parue dans la revue Medical The Lancet, près d'un patient sur cinq en Afrique a des complications après une opération. Et là où existent des chiffres comparables, à savoir dans la chirurgie non urgente, la mortalité atteint 1% sur le continent contre 0,5% dans le monde. L'étude est décrite comme la plus vaste et la plus fouillée sur la chirurgie africaine. Elle a réuni plus de 30 chercheurs qui ont rassemblé les données de 247 hôpitaux dans 25 pays du continent, de l'Algérie à l'Afrique du Sud en passant par le Sénégal et les deux Congos. Ont été suivis les dossiers de 10 885 patients, dont un tiers ont subi une césarienne.
Et l'étude montre également qu'une pénurie de main-d'œuvre et de ressources aboutissent à une chirurgie moins sûre dans la région.
Oui, Rosine, elle appelle à une amélioration de la surveillance des patients pendant et juste après leur opération, a souligné The Lancet. Au total, 18,2% de ceux-ci ont connu des complications et parmi eux, presque 1 sur 10 en est mort. Pourtant, 4 patients sur 5 étaient considérés à risque faible, sachant leur jeune âge et leur bonne santé. Beaucoup de vies pourraient être sauvées par un suivi efficace des patients. Le résultat des opérations restera mauvais tant que le problème de manque de ressources ne sera pas réglé, a affirmé le principal auteur, le Sud-Africain Bruce Bicard. L'Afrique ne connaît que 212 opérations pour 100 000 habitants par an, soit 20 fois moins que nécessaire pour couvrir les besoins vitaux d'une population ont révélé 3 chercheurs. Si les patients meurent trop souvent, l'absence de chirurgie en Afrique représente un tueur silencieux qui fait probablement plus de victimes, ont déploré les chercheurs.
Rendons-nous maintenant en Zambie, où le président Edgar Lungu a déployé l'armée pour aider à combattre une épidémie de choléra qui a fait 41 morts dans la capitale Lusaka et affecté 1550 personnes de plus depuis septembre.
Oui, l'épidémie initiale a débuté le 28 septembre selon l'Organisation mondiale de la santé et le ministère zambien de la santé a ensuite lancé des efforts pour limiter la propagation de la maladie. Le choléra est une maladie transmise par l'eau qui va de pair avec la pauvreté et qui, même si elle est facile à traiter, peut être mortelle si elle n'est pas traitée.
Et le ministère de la santé a dirigé toutes les 3 ailes de la force de défense pour intensifier les efforts visant à minimiser la propagation du choléra dans la capitale et le reste du pays.
Oui, Rosine, Lusaka a enregistré en moyenne 60 nouveaux cas par jour et j'ai noté avec une grande tristesse que 41 personnes sont mortes de cette maladie depuis son apparition, a déclaré le président Lungu. L'épidémie était initialement liée à l'eau contaminée par des puits peu profonds et à des conditions insalubres dans les zones résidentielles et publiques touchées, mais nous notons maintenant que la propagation du choléra se développe à travers les aliments contaminés. Lungu a ajouté qu'il y aurait une pression sur les stands de nourriture de rue, les bars et les restaurants qui ne répondent pas aux normes minimales d'hygiène alimentaire. Je suis profondément préoccupé par l'avancée décisive de l'épidémie, a-t-il déclaré.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Terminons cette actualité par le Gabon où le SAMU social, service d'aide médicale urgente, lancé il y a 5 mois, commence à prendre racine dans la capitale.
Selon son fondateur et coordonnateur en chef, Wenceslas Yaba, ce service offre gratuitement des médicaments et des soins de santé, ainsi qu'un hébergement et une aide psychologique aux plus pauvres des plus pauvres. Plus de 38% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté et 300 000 de ces parias n'ont pas accès aux soins. C'est ce qu'a déclaré Yaba, bien que le pays équatorial soit depuis longtemps un important exportateur de pétrole et riche en bois précieux. Avec 115 employés, le SAMU social dispose d'un centre de soins médicaux et psychologiques à Libreville, d'une dizaine d'ambulances et de 3 abris et pour aider ceux qui en ont besoin.
Depuis juillet, l'équipe a entrepris quelques 7000 interventions.
Oui, Rosine, le SAMU social effectue le travail social le plus pressant sur place, toujours selon son fondateur et coordonnateur en chef. Notre travail consiste à prendre en charge ceux qui sont les plus à risque. À Libreville, un appel gratuit peut être fait à 1888, 24 sur 24, tous les jours. Les gens appellent, nous leur proposons de venir nous voir et nous sortons une ambulance pour aller chercher ceux qui ne peuvent pas le faire, a déclaré Yaba.
Sentez votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous nous intéressons au VIH-Sida chez les enfants. En l'absence d'un suivi médical de la femme enceinte, entre 15 et 45% des mères donnent naissance à des enfants infectés par le VIH. La plupart de ces enfants nés avec le virus se trouvent en Afrique du fait d'un déficit d'information, de dépistage et de prise en charge de leur maman. Comment se fait la contamination? Comment suivre ces enfants qui naissent avec le virus? Comment prévenir cette transmission? Ces questions, nous les avons posées au professeur Madeleine Folke. Elle est chef du service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire. Elle commence par nous expliquer le mécanisme de transmission du VIH de la mère en l'enfant.
Il faut dire que 90% des infections à VIH se font par transmission mère-enfant, encore appelée transmission verticale. La transmission mère-enfant est le mode de contamination quasi exclusif de l'enfant. Ça peut se faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et ça vraiment, ça représente 10 à 20% du mode de contamination, et également pendant l'allaitement. Et on a dénombré des facteurs de risque pour la transmission mère-enfant, ce sont les facteurs maternels, c'est-à-dire qu'une femme qui a une charge virale élevée, parce qu'elle a fait, elle a été pour la première fois en contact avec le virus pendant qu'elle est enceinte, ou bien qui a un stade avancé de la maladie, ou qui a une carence, a plus de risques de contaminer son enfant par le VIH. Et on a vu également des facteurs viraux. Le VIH1, il est très contagieux, très susceptible de passer par voie transplacentaire. Et les facteurs placentaires et les facteurs obstétricaux, tels qu'une rupture prématurée des membranes, qui fait que l'enfant n'est pas protégé. Donc le virus est susceptible de le contaminer. Il y a également l'allaitement, vous avez vu, qu'il rentre dans les différents modes de transmission. Donc il faut retenir que 15 à 20% des gestantes qui sont séropositives ont un risque de contaminer leur enfant en l'absence d'intervention.
À partir de quel moment une maman peut savoir ou alors les médecins peuvent savoir qu'un enfant est contaminé? Est-ce qu'à la naissance, on doit immédiatement faire le test? Comment ça se passe?
Quand on sait que la maman est séropositive, donc elle a été dépistée au cours des consultations prénatales ou bien pendant l'accouchement et qu'on a vu qu'elle était séropositive, dès que l'enfant sort, normalement, il est possible de savoir si cet enfant est infecté par le VIH. Donc la détection peut se faire dès la naissance. Dans les pays développés, on le fait dès la naissance par des méthodes directes, c'est-à-dire par la PCR. Là, on met en évidence le virus. Donc ça peut se faire dès la naissance, mais il faut répéter à 1 mois, 3 mois. Mais dans nos pays aux ressources limitées, on a choisi de faire cette méthode directe là, de détection à 6 semaines. À 6 semaines de vie, il n'y a pas encore de manifestation clinique de la maladie. On parle de dépistage précoce. l'enfant vient à 6 semaines, c'est-à-dire qu'il vient pour sa première dose de vaccination, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, etc. Et on profite du fait qu'il vienne pour sa vaccination pour faire sa PCR. Et normalement, au bout de 2 semaines, on a les résultats de cette PCR et on peut savoir si cet enfant est positif ou non. Donc, on ne choisit pas la sérologie VIH parce que la sérologie VIH met en évidence les anticorps. Et chez le nouveau-né, il y a transmission des anticorps maternels, ce qui fait que la sérologie sera positive sans pour autant nous dire que cet enfant est infecté par le virus. Donc, il faut faire le dépistage par la méthode directe qui est la PCR. Et qui se fait à 6 semaines. Donc dès 6 semaines, ça prend 2 semaines ou à 1 mois pour avoir les résultats. Donc à 8 semaines, à 9 semaines, on peut déjà savoir si cet enfant est positif ou négatif. S'il est négatif, c'est qu'il est négatif. Mais si cet enfant est allaité, il faut refaire la PCR à l'arrêt de l'allaitement. Comme je vous ai dit, l'allaitement peut être source aussi de transmission d'une infection à VIH. Donc il est possible, il ne faut pas attendre qu'il y ait des manifestations cliniques. Il faut vraiment faire le dépistage le plus précocement possible.
Il y a une question justement qui me préoccupe. Vous avez insisté sur le fait que la maman serait séropositive, mais il peut s'avérer que la maman est séronégative et que le père est séropositif. Est-ce que dans ce cas-là, il y a des risques de contamination si, par exemple, pendant la grossesse, on n'a pas détecté que la maman était séropositive, mais que le papa a été détecté séropositif? Est-ce qu'il y a des risques éventuellement de transmission que cet enfant soit positif?
Un enfant est positif quand sa mère est positive. Donc, vous avez dit que le père est séropositif, mais la mère est séronégative. Mmh. Mais elle peut s'infecter pendant sa grossesse, c'est-à-dire qu'elle a été dépistée négative, elle est enceinte et on sait qu'elle continue d'avoir des relations, donc elle peut s'infecter pendant qu'elle est enceinte là. Et là, il y aura un risque élevé parce que la charge virale sera élevée, il y aura un risque élevé pour l'enfant. Mais si cette mère demeure négative, l'enfant sera négatif. Il faut que la maman soit positive pour que l'enfant soit positif.
Et donc la sérologie est liée au statut de la maman.
Voilà, mmh. La sérologie est liée au statut de la maman. C'est la mère qui contamine son enfant.
Mmh. Alors, est-ce que un enfant né séropositif est condamné à vivre toute sa vie en prenant les ARV, en suivant un traitement? Ou alors, dès la naissance, on peut rapidement s'y conscrire ou alors réduire ou même éliminer la charge chez l'enfant?
D'accord. Vous avez vu, j'ai utilisé la PCR, pas la sérologie.
C'est-à-dire PCR?
Parce que la PCR, c'est la méthode directe. Mmh. C'est pour voir si le virus est présent chez l'enfant, chez le nouveau-né. Mmh. Parce que si vous faites la sérologie, ce sera positif parce que ce sont les anticorps maternels qui lui sont transmis. Mmh. Donc on ne sait pas encore s'il est vraiment infecté par le virus si on fait la sérologie. Donc il faut faire la PCR. Ça se fait à 6 semaines de vie. Dès qu'on fait cette PCR, que cette PCR revient positive, cet enfant-là, on lui fait un bilan et il est mis automatiquement sous traitement. Après avoir obtenu l'adhésion de la mère, parce que c'est elle qui va lui donner les médicaments, les antirétroviraux, il faut qu'elle comprenne le bien fondé du traitement antirétroviral. Et ce traitement antirétroviral, jusqu'à preuve du contraire, sera donné à vie. Ce traitement antirétroviral permettra à l'enfant de combattre l'infection à VIH, permettra à l'enfant d'avoir une charge virale qui est indétectable, donc de vivre comme tout autre enfant.
Comment s'effectue de manière générale la prise en charge au-delà de la prise des ARV? Est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques que vous pouvez donner aux mamans ou à nos auditeurs qui nous écoutent? Comment s'occuper d'un enfant? Est-ce qu'il y a des aspects nutritionnels? Est-ce qu'il y a d'autres aspects en dehors de la prise des ARV?
Quand le dépistage est fait à 6 semaines et que ça revient positif, on fait un petit bilan qu'on appelle bilan initial. Et normalement, au dépistage précoce de 6 semaines, on associe la prise de cotrimoxazole, c'est le Bactrim, avant même qu'on ait les résultats. Parce qu'on a vu que ça permettait à l'enfant de ne pas faire des infections opportunistes. Ça joue un rôle aussi dans la prévention du paludisme. Donc, on fait la PCR à 6 semaines, l'enfant est mis sous cotrimoxazole. Et quand les résultats reviennent, que c'est négatif, on arrête le cotrimo. Ça veut dire que l'enfant n'est pas infecté par le VIH. Mais quand ça revient positif, on poursuit la mise sous cotrimoxazole et on fait un bilan initial à cet enfant.
Et cet enfant est mis sous traitement antirétroviral. Comme je vous ai dit, ce traitement antirétroviral sera donné durant toute la vie, jusqu'à preuve du contraire. Mais en même temps, cet enfant est suivi comme les autres enfants, parce qu'il faut vraiment qu'il puisse se développer comme tout enfant qui est immunocompétent, qui n'a pas de problème. Donc il faut suivre son alimentation, il faut suivre sa vaccination, il faut suivre son développement psychomoteur et staturopondéral. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut avoir un enfant qui est VIH, qu'on ne peut pas reconnaître parmi les autres enfants. Voilà. Il faut vraiment qu'ils viennent régulièrement, chaque mois au début, ensuite une fois par trimestre, et on lui fera un bilan sanguin une fois tous les 6 mois, et on va suivre sa charge virale pour voir qu'il est indétectable et qu'il reste indétectable. Et là, franchement, on a nos enfants qui ont un bon développement staturopondéral, qui ont une bonne croissance, qui évoluent vraiment comme s'ils n'avaient rien. Mais c'est au prix d'une prise régulière des antirétroviraux et puis d'un conseil en alimentation, parce qu'il faut qu'ils mangent de façon équilibrée pour se maintenir en bonne santé.
Quels conseils donnez-vous aux mamans qui savent déjà qu'elles sont séropositives ou alors qui ne le savent peut-être pas? Comment faire pour éviter cette transmission-là?
Je dirais déjà même que ça commence par nos adolescents. Il faut qu'ils puissent connaître leur statut sérologique. Et puis, s'ils sont négatifs, qu'ils adoptent des conduites qui leur permettent de préserver ce statut négatif, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles protégées ou bien s'abstenir de relations sexuelles si c'est possible. Mais pour une femme qui est enceinte, franchement, la porte d'entrée dans les soins pour nous, ça a été le suivi de la grossesse. Parce que quand la femme est enceinte, elle est plus apte à faire tous les examens et tout. Et donc, elle doit faire son dépistage. Ça doit être systématique. Si elle ne l'a pas fait avant, même si elle l'avait déjà fait, il faut le faire. Parce qu'on sait qu'il y a des moyens de pouvoir faire que l'enfant naisse sans être infecté par le VIH si la mère est positive. Donc, elle fait son test. Elle vient pour se faire suivre sa grossesse dans les structures sanitaires. Et là, on lui fera son test de dépistage. Si elle est positive, elle est mise automatiquement sous traitement antirétroviral. Et ce traitement antirétroviral la préserve, elle, mais ça permet pour elle d'avoir une charge virale indétectable. Et si elle est indétectable, le risque de transmission est vraiment inférieur à 1. Il est quasi nul. Donc, ça nous permettra d'éliminer ces modes de contamination chez les enfants. Lorsqu'elle prend correctement son traitement et qu'elle accouche, l'enfant également, il est mis sous traitement pendant une courte période, une prophylaxie à la névirapine, et il faut revenir à 6 semaines pour faire sa PCR. Et c'est la PCR qui pourra nous dire si l'enfant est infecté ou non. Et généralement, si c'est bien suivi, ces antirétroviraux pris par la mère, si vraiment les conditions d'accouchement, l'alimentation protégée, si vraiment c'est bien fait, normalement, il est possible d'éliminer cette transmission mère-enfant de l'infection à VIH.
Et maintenant, au niveau de l'alimentation, de l'allaitement que vous aviez évoqué tantôt?
Si c'est contre-indiqué dans les pays développés, chez nous ici, on a compris l'importance vraiment de nourrir son enfant avec le lait de sa maman. C'est culturellement accepté et tout. Donc maintenant, la femme qui est enceinte, qui est mise sous traitement antirétroviral, donc qui a sa charge virale qui est indétectable, peut nourrir son enfant avec son lait jusqu'à 1 an, c'est-à-dire à 6 mois, il n'aura que le lait. Et puis à partir de 6 mois, on fait la diversification et elle peut continuer à lui donner son lait jusqu'à 1 an, en plus de la diversification. Et comme elle a une charge virale qui est indétectable, il y a un moindre risque pour elle de contaminer son enfant. Donc ce qui a fait maintenant que nos mamans peuvent allaiter leur enfant comme toute autre femme qui est immunocompétente.
Nous remercions le professeur Madeleine Folquet qui nous répondait depuis la Côte d'Ivoire.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Selon les statistiques de l'ONU SIDA publiées en 2016, 290 enfants meurent chaque jour du SIDA ou des maladies opportunistes. Mais les gouvernements et les ONG ne baissent pas la garde pour permettre aux enfants infectés de vivre le plus longtemps possible. C'est le cas de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du SIDA au Burundi. L'ANSS aide au dépistage, au suivi, à la prise en charge médicale, à l'accompagnement psychologique et même au soutien scolaire. C'est ce que nous a expliqué le docteur Dorian Gakiza, responsable de la prise en charge du sida pédiatrique de l'ANSS.
Notre intervention consiste en une prise en charge globale, c'est-à-dire la prise en charge médicale et nutritionnelle, l'accompagnement psychologique et le soutien social. Car ces enfants ont certes besoin d'une prise en charge médicale, mais aussi prise en charge nutritionnelle, l'accompagnement psychologique, le soutien social et aussi scolaire.
Et c'est quoi l'effectif des enfants que vous aidez jusque-là?
Bon, nous avons des antennes à l'intérieur du pays, mais au centre Tuliho, qui est à Bujumbura, nous avons déjà autour de 500 enfants, jeunes et ados, qui sont infectés par le VIH.
Et y a-t-il des contraintes particulières que vous rencontrez dans la prise en charge de ces enfants?
Ouais, il s'agit dans la plupart des cas d'enfants qui vivent dans des conditions socio-économiques précaires. Et la demande est loin supérieure aux moyens dont on dispose. Et cela fait que nous pouvons aider pas mal, mais pas tout le monde. Aussi, les formes galéniques des ARV. Quand je parle de formes galéniques, je veux dire les formes comprimées ou les formes sirop qui sont adaptées aux enfants ne sont pas toujours disponibles au Burundi. Et cela est un problème parce que chez les enfants, on doit adapter la forme au poids et aussi à l'âge de l'enfant. Parce qu'un enfant de moins de 7 ans, ce sera difficile de donner un comprimé pour avaler. Ça, c'est un souci majeur car ces formes galéniques, ceux qui sont adaptées, sont souvent en rupture de stock ou ne sont pas carrément disponibles. Aussi, le traitement ARV est un traitement à vie, comme vous le savez, et les enfants ont tendance à abandonner le traitement parce qu'ils ont des comportements qui peuvent entraver l'observance. Et aussi chez les enfants en bas âge, dont le traitement ARV doit être donné par une tierce personne. Et cette personne peut ne pas être bien impliqué dans la prise en charge de cet enfant. Les plus grandes difficultés, c'est d'abord la disponibilité des ARV qui sont adaptés à leur poids, à leur âge. Deuxièmement, ce sont des enfants qui vivent dans des conditions socio-économiques précaires. Ils ont besoin de beaucoup plus d'aide au niveau social, par exemple le loyer, l'appui alimentaire, ou bien au niveau scolaire pour pouvoir continuer la scolarité. Tout ça, ce sont les grands défis et c'est là que nous intervenons.
Et c'est quoi l'âge des enfants que vous aidez?
C'est de 0 à 19 ans pour dire les enfants et les adolescents et aussi les jeunes jusqu'à 24 ans sont aussi pris en charge dans ce cadre de prise en charge pédiatrique.
Y en a-t-il que vous logez ou ils rentrent tous chez eux?
Tous les enfants vivent dans leur famille, sauf quelques-uns qui ont eu une longue histoire de maladie, qui ont des stigmates, qui, par exemple, une malnutrition aiguë sévère ou bien qui sont rejetés par la famille à cause de leur séropositivité. Et là, il y a une maison que les enfants ont eux-mêmes baptisée Maison de la Joie, qui les accueille pour un certain temps, le temps que l'enfant redevienne un peu plus ou moins normal parce que la maladie ou l'infection opportuniste est passée. Puis, il est réinséré dans sa famille avec un bon état général apparent.
Vous venez juste de dire que certains enfants sont rejetés par leur famille. Est-ce que ça veut dire que c'est des enfants qui ont attrapé le VIH-SIDA après la naissance?
Oui, dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui ont été infectés au cours de l'accouchement, pendant l'allaitement ou pendant la période post-natale. Ce sont des enfants qui ont été infectés en bas âge, qui ont eu une longue histoire de maladie. Ils ont parfois un poids inférieur aux autres enfants du même âge. Ils ont parfois des lésions qui sont visibles sur la peau et cela peut être un objet de discrimination. Tout ça, ça entraîne une certaine discrimination dans les familles ou bien au niveau scolaire.
À quel moment vous apprenez à ces enfants qui sont porteurs du VIH-SIDA? J'imagine qu'à un certain moment, ils se demandent pourquoi ils fréquentent votre centre d'une façon régulière et répétitive.
Oui, effectivement, les enfants, quand le développement cognitif pousse à poser quelques questions, on saisit l'occasion pour débuter le processus d'annonce. On parle de processus d'annonce parce que, en fonction du développement cognitif, on va parler de microbes, puis plus tard parler du VIH vers l'âge de 12 ans. Mais le processus d'annonce qui est débuté vers l'âge de 7 ans se termine en général vers 12 ans et l'enfant est informé du statut sérologique VIH+. Et cela aide aussi dans l'observance, c'est-à-dire la prise correcte du traitement ARV qui est un traitement à vie.
Y a-t-il des enfants aujourd'hui au Burundi qui sont porteurs du VIH-SIDA mais qui ne sont pas soignés ou qui ne sont pas pris en charge par ces centres spécialisés comme le vôtre?
Actuellement, au Burundi, il y a la décentralisation de la prise en charge du VIH et tous les enfants devraient avoir été dépistés, soit au cours de la période de 0 à 18 mois ou bien par après lors de consultations pédiatriques. Ceux qui sont dépistés sont directement référés vers le centre de prise en charge. Mais cela étant, il y a toujours des cas qu'on observe où les enfants sont dépistés tardivement. Cela peut avoir des conséquences sur le suivi ultérieur de l'enfant parce qu'il est vu dans un stade avancé du VIH-Sida. Mais une autre chose qui est louable, c'est la politique du dépistage familial qui est en vigueur au Burundi. Mm-hmm. C'est-à-dire que si un parent est dépisté séropositif, il est recommandé que ses enfants soient aussi dépistés.
Nous remercions le docteur Dorian Gakiza qui nous répondait depuis Bujumbura au Burundi.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Continuez comme vous le faites déjà à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur, il m'arrive d'avoir des fois des sensations très étranges au niveau des jambes, comme si je recevais une décharge électrique. Mais des amis que j'ai consultés, à qui j'en ai parlé, m'ont parlé des crampes. Alors si c'est le cas, que dois-je faire? Est-ce normal d'avoir des crampes même lorsqu'on vient de faire une marche? Et c'est très courant chez moi.
Ce que je peux dire à cette auditrice, si c'est des crampes, c'est qu'elle ressent une espèce de contracture musculaire soudaine, incontrôlable, douloureuse, et qui très souvent sont transitoires au niveau de ses jambes. Ce qu'elle ressent un tout petit peu comme étant des décharges électriques. Très souvent, ces contractures sont sans gravité. Mais toutefois, il faut connaître les causes, parce que les causes peuvent être multiples. La cause la plus fréquente, en général, de cette sensation de contracture, cette sensation de crampe au niveau des jambes, c'est souvent la déshydratation. C'est parce qu'on est déshydraté et on a fait un effort physique qui se manifeste effectivement par une contraction musculaire involontaire et soudaine de ce muscle-là, dont la déshydratation. Mais il n'y a pas que la déshydratation, il y a d'autres causes qui peuvent expliquer cette sensation de crampe au niveau des jambes. On a notamment des troubles métaboliques, un manque de calcium, un manque de magnésium, un manque de potassium, un manque de phosphore, peuvent se manifester par une sensation de crampe au niveau des jambes. Il y a aussi une autre cause qui est non négligeable, c'est les personnes qui vont souffrir d'une maladie des artères. Une maladie des artères qui peut être la complication d'un diabète, qui peut être la complication d'une hypertension artérielle, qui peut être la complication éventuellement d'une dyslipidémie. Ça se manifeste par des artérites, une artériopathie par des artérites. Il y a aussi des maladies des veines, les varices. Les varices, mais là, cette fois-là, on a des crampes, mais qui sont plutôt associé à des jambes lourdes. Quoi qu'il en soit, moi je conseille à cette auditrice de consulter un médecin pour qu'il puisse vraiment faire le diagnostic exact, le diagnostic, la cause, le diagnostic étiologique. Mais dans l'attente, moi je lui conseille surtout de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau, surtout avant, pendant et après tout effort, y compris pendant la marche, qu'elle s'hydrate bien, qu'elle boive suffisamment de l'eau, elle fasse une bonne hydratation et c'est comme ça qu'elle pourra limiter un tout peu cette sensation désagréable qu'elle a au niveau des jambes. Voilà ce que je pouvais répondre à notre auditrice par rapport à cette sensation qu'elle décrit de désagréable au niveau des jambes et qui l'handicape dans sa vie quotidienne.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au VIH-Sida chez les enfants. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Madeleine Folquet, médecin pédiatre et chef de service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Cocody en Côte d'Ivoire. Elle nous a expliqué comment se transmet la maladie et comment prendre en charge les enfants vivant avec le virus. Nous avons aussi écouté le témoignage du docteur Dorian Gakiza, responsable de la prise en charge du sida pédiatrique de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi. Il nous a présenté les activités menées par l'association et les problèmes auxquels font face les enfants séropositifs. Notre consultant, le docteur Amangenkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Merci également à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité santé et à Chouchou Kawa, notre correspondante à Kinshasa, qui a recueilli les questions des auditeurs. Georges Léonard Sagnot assurait la réalisation et Aiden Outko était à la console. Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé, c'est votre avenir.
Au revoir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.